229. 229. Ta parole est notre richesse.
Chers frères et sœurs, je propose que nous lisions au début, d'abord, deux versets dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9. Au chapitre 9, les versets 35 et les suivants. Et Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient là et dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Nous lisons d'abord ces deux versets seulement. Après, j'aimerais encore lire un paragraphe un peu plus grand. Nous avons dans l'Évangile, dans les Évangiles, selon Matthieu, mais aussi Marc et Luc, quelquefois, des résumés de ce que le Seigneur fait ou a fait, des résumés de ses œuvres ou aussi des résumés de ses paroles. Ici, nous avons un tel résumé en quelques versets seulement, ce que le Seigneur faisait dans parmi le peuple juif. Ici donc, nous avons un résumé très court Jésus allait par toutes les villes et par les villages. Et il y a maintenant trois activités qui sont mentionnées que le Seigneur a accomplies pendant qu'il était au milieu de son peuple. Il y a d'abord ce que nous voyons. Il allait partout. Il ne laissait pas de côté, il ne faisait pas un choix seulement cette ville-là ou cette ville-là, mais il allait partout, dans toutes les villes et par les villages. Cela nous montre d'ailleurs que le service du Seigneur était vraiment un service pour le peuple, pour tout le peuple des Juifs. Pas seulement pour quelques personnes, pas seulement pour quelques groupes, mais c'était pour chacun. Nous le voyons d'ailleurs aussi quand nous regardons quelques situations spéciales dans les évangiles qui sont mentionnées et présentées. C'est la première chose. La deuxième chose que nous voyons, c'est ce qu'il faisait. Il enseignait dans les synagogues. Bien, les synagogues étaient vraiment aussi des lieux où les Juifs se rassemblaient pour lire la parole. Ils n'avaient certainement pas tous un exemplaire de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Mais dans ces synagogues, il y avait ces livres de la parole de Dieu, l'Ancien Testament, et ces livres étaient lus, selon d'ailleurs un certain manière de procéder. Mais quand le Seigneur venait, et aussi plus tard d'ailleurs aussi l'apôtre Paul, qui est allé aussi dans son service, d'abord et toujours dans les synagogues, quand il y avait une synagogue dans une ville, il allait là pour prêcher l'Évangile. Mais le Seigneur le faisait aussi, il allait dans les synagogues pour prêcher. On lui donnait aussi le livre de la loi pour qu'il puisse le lire. Et il donnait des enseignements qui étaient, comme il devait dire, après aussi certaines personnes ont dit, il n'enseignait pas comme les scribes, il n'enseignait pas comme les autres. Il y avait toujours beaucoup plus, il y avait de la puissance dans ce qu'il disait. Il y avait quelque chose de, on remarquait qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui parlait. Et ça c'est important, d'ailleurs quand nous voyons ça. C'est aussi tout cela que nous voyons, c'est aussi exemplaire. Non, c'est pas seulement ce que nous lisons du Seigneur Jésus ici, et comme quelque chose qui nous intéresse, bien sûr, mais cela est aussi un modèle pour nous. Le Seigneur est l'évangéliste, je crois on peut dire par excellence, on peut dire comme cela, oui. Il était également aussi un docteur par excellence. Il était aussi le pasteur, le vrai pasteur. Et voyez, j'ai déjà maintenant mentionné trois autres activités du Seigneur Jésus qu'on trouve ici dans ce verset 35. Nous avons déjà vu enseigner dans leur synagogue, il enseignait la parole de Dieu. Il ne lisait pas seulement, mais il donnait aussi le sens. Et il touchait surtout les cœurs, c'était plus important encore. Il touchait les consciences et les cœurs quand il parlait. Il mettait, pour ainsi dire, vraiment la parole de Dieu sur le cœur, sur la conscience. Et je me rappelle, vous connaissez certainement bien sûr ce passage, où alors les pharisiens et les sadduciens et les autorités du peuple avaient envoyé des serviteurs qui devaient écouter ce qu'il disait pour une raison très positive, mais simplement pour savoir. Est-ce que peut-être il disait quelque chose qui n'est pas selon la loi? Est-ce que peut-être nous trouverons quelque chose contre lui? Parce que leur état de cœur était vraiment un état méchant contre le Seigneur. Mais alors, c'est ceux qu'ils avaient envoyés, ils devaient dire, alors, nous pouvons rien dire. Oh, jamais un homme a parlé comme lui. Jamais un homme a parlé comme lui. Et ça, c'était vrai, tout à fait vrai, parce que le Seigneur parlait toujours dans le Saint-Esprit. et toujours la vérité, et toujours ce qui touchait les cœurs, et toujours qui était adapté aux besoins de ceux qui étaient là pour écouter. Ça, c'est merveilleux d'ailleurs. Et puis, nous avons une deuxième expression, il prêchant l'évangile du royaume. Bien sûr, à cette époque-là, l'évangile n'était pas encore l'évangile de la grâce que nous connaissons maintenant et qui est prêché aujourd'hui, heureusement encore, mais l'évangile du royaume. C'était donc l'évangile, la bonne nouvelle concernant le royaume que le Seigneur Jésus voulait établir et va établir aussi un jour, bientôt peut-être déjà. Et cet évangile, c'était un évangile qui est adapté au royaume où le Seigneur sera le roi et où les principes de ce royaume sont présentés. Et bien sûr, ça commençait là aussi, bonne nouvelle, cela commençait là aussi avec la foi. Et quand l'évangile du royaume est prêché, c'est premièrement que le roi est accepté. Ça, c'était la foi à celui qui est le Messie, il devait être le roi de ce royaume. Bon, le Seigneur Jésus était donc aussi un évangéliste. Et certainement, nous pouvons nous le représenter, il était un évangéliste qui parlait avec intensité et avec vraiment du poids. Malheureusement, souvent, les cœurs se sont fermés malgré tout, parce que l'ennemi était aussi là. Et nous voyons d'ailleurs aussi, quand le Seigneur Jésus était ici sur la terre, l'ennemi a essayé de tout faire contre le Seigneur. Un petit exemple pour cela, entre parenthèses, les faits qu'il y a beaucoup, dans le temps où le Seigneur Jésus était sur la terre, il y avait beaucoup de démons, il y avait beaucoup de personnes qui étaient chargées par un démon, plus qu'avant. En cela, on voit que l'ennemi était vraiment acharné contre le Seigneur Jésus pour empêcher que l'évangile que le Seigneur prêchait, ses paroles, atteignent les cœurs. Mais il était donc le grand évangéliste aussi. Et nous avons un troisième point, et guérissant toute maladie et toute langueur. Cela était peut-être pour certaines personnes le plus important, parce que c'était visible. C'était visible et c'était un effet qui était sensible aussi pour ceux qui étaient malades et ceux qui appartenaient à ceux qui étaient malades, c'était quelque chose de magnifique et merveilleux. Quand il y avait un enfant qui était malade, que le Seigneur a guéri. Quand il y avait un homme qui était boiteux, que le Seigneur l'aidait, il pouvait marcher. Ou quand il y avait un aveugle et il a recouvert la vue. Ou bien il était même aveugle-né et le Seigneur a donné la vue. Premièrement, pour la première fois qu'il a pu voir. Voilà quelque chose qui était visible et qui était aussi très remarquable pour les hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, toutes les maladies? Je crois que c'est aussi dans ce chapitre ici que nous voyons, oui, dans ce chapitre nous pouvons lire dans le verset 12, et Jésus l'ayant entendu leur dit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. » Et nous savons que cette parole-là n'a pas seulement son sens concernant les maladies corporelles qu'on connaît, mais cela, le mot maladie, comme aussi d'ailleurs le mot langueur, les deux mots ont un sens supérieur, un autre sens, un sens aussi qui concerne l'esprit, qui concerne l'âme et l'esprit. Parce que là aussi, le Seigneur était celui qui guérissait. Il guérissait aussi dans le sens qu'il a montrer que quelqu'un avait besoin de pardon, avait besoin d'écouter, confesser et de recevoir le pardon. Je pense par exemple à cette femme samaritaine à la fontaine de Sichar. Là, cette femme, elle n'était pas malade de corps. Son corps, elle n'était pas malade. Elle était capable d'aller dans cette source pour chercher de l'eau. Mais il y avait une autre maladie. Nous savons et nous connaissons cette maladie qu'elle avait. Sa vie était une vie complètement détruite. C'est une vie qui était sans sens. C'est une vie très, très triste qu'elle avait. Elle devait le confesser. Et le Seigneur était là aussi, le médecin, qui savait exactement, vous me comprenez quand je dis, le médicament qu'il fallait pour elle. Et le Seigneur l'a dit, d'une façon d'ailleurs très remarquable, parce que nous voyons que quand le médicament que le Seigneur l'a employé, cette femme aurait pu être furieuse, parce que ça c'était quelque chose qui lui était reproché, elle était accusée, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Mais elle n'était pas, mais elle restait là, elle était tenue par le Seigneur, elle ne pouvait pas s'en aller. Elle est restée là, et elle a même essayé de parler avec le Seigneur, et le Seigneur était prêt à lui parler. Voyons, je pense que c'est aussi inclus dans ce que nous lisons ici, que le Seigneur était aussi celui qui guérissait toute maladie et toute langueur. C'est encore aujourd'hui d'ailleurs le cas. Quand nous lisons cela, nous devons aussi savoir que le Seigneur connaît toutes les maladies qui peuvent être là. Et chers amis, par exemple, un enfant qui n'est pas malade corporellement, mais un enfant qui est malade dans son esprit, dans ses décisions, dans son âme, dans ses aspirations. Vous me comprenez quand je dis ça. Cet enfant a aussi besoin que le grand médecin s'occupe de lui. Un jeune homme, par exemple. Le grand médecin doit être là aussi pour le guérir. Et c'est quelque chose qui est pour nous un fait très heureux de ce que nous avons un tel Seigneur, un tel Sauveur, un tel médecin, comme je viens de dire. Comment est-ce qu'on peut appeler ce service? Ce service, en général, on pourrait l'appeler aussi un service pastoral. C'est ce que le Seigneur fait. Donc nous trouvons les trois grandes activités que nous connaissons aussi parmi nous les chrétiens, parmi les frères et sœurs. Nous connaissons l'évangéliste, nous connaissons docteur, enseigné, et nous connaissons aussi pasteur. Et ce dernier qui est mentionné ici, c'est pasteur. Et là, le Seigneur continue encore en nous montrant par une petite un verset ici aussi comment quelle doit être la base pour un tel service. Regardons le verset 36. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient là et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous voyons ici le cœur du Seigneur, le Seigneur qui est ému de compassion quant à la vue des personnes telles que je viens de nommer tout à l'heure. Quand il a vu de telles personnes, il est encore ému aujourd'hui, ému de compassion. Il y avait des brebis. Les brebis ici étaient sans berger, qui n'avaient pas de berger. Nous connaissons dans l'Ancien Testament aussi un passage bien connu, où nous trouvons des brebis qui n'ont pas de berger, pas de bon berger. Nous trouvons cela en Ézéchiel 34. Je crois que tout le monde connaît ce passage, un très beau passage qui commence D'abord avec la description de l'état malheureux du peuple d'Israël parce qu'il n'avait pas de vrais bergers. Ceux qui devaient être des bergers travaillaient seulement pour eux-mêmes, cherchaient seulement leur propre avantage et ne pensaient pas vraiment aux brebis. Et alors nous trouvons là un mot, « me voici moi ». Je rechercherai mes brebis. Me voici moi. Dans notre langue, on dit ça, siehe, c'est-à-dire, voici, ich bin da. Je suis présent. Je suis là. C'est la réponse. Je suis là. Et moi, je rechercherai mes brebis. Moi, je m'en occuperai. Moi, je les connais et moi, je vais m'en occuper. Je vais les paître, je vais les garder, je vais les protéger. Tout ce que nous trouvons dans ce beau chapitre de Ézéchiel 34, duquel je ne vais pas parler maintenant, mais simplement pour montrer quel est le travail de ce berger, le Seigneur Jésus. Et le Seigneur ajoute encore une chose en disant à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. » C'est un appel aux disciples. C'est un appel aussi à nous. Est-ce que nous prions pour ces ouvriers? Quels ouvriers? Ceux qui travaillent dans le sens qui nous est montré dans les activités du Seigneur, que ce soit évangéliste, apporter l'évangile, ou bien que ce soit aussi docteur, enseigner, ou que ce soit aussi un service pastoral. Le Seigneur en cherche des ouvriers fidèles. Oui, nous prions pour ces ouvriers. Je pense que nous le faisons dans les réunions de prière. Est-ce que nous prions pour les frères et sœurs qui sont partis, qui travaillent là et là, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans notre pays et dans le rassemblement où nous trouvons? Est-ce que nous prions pour ces frères et sœurs qui ont un service, donc un service dans la moisson? Voilà une question qui se pose. Le Seigneur le dit aux disciples, il le dit à nous aussi, mais peut-être encore autre chose. Peut-être la première chose que le Seigneur veut mettre sur notre cœur. Et toi, est-ce que toi, tu as un service dans la moisson? Est-ce que nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes peut-être adressés nous-mêmes, personnellement? Nous prions pour... Mais nous devons également nous poser la question, quel est le service? Parce que nous pouvons tous être des serviteurs du Seigneur. Quel est le service pour moi? C'est une prière nécessaire et profonde, parce que nous devons vraiment rechercher la volonté du Seigneur. Oui. Mais je voudrais faire encore une... Je voudrais ajouter encore quelque chose. Nous avons vu maintenant, en résumé, quelques services que le Seigneur a accomplis quand il était dans son peuple et en Israël. Le Seigneur est le grand exemple. Et je voudrais nommer un exemple où nous trouvons cela, justement, comment le Seigneur l'a fait. Dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, quand le Seigneur était là, quand le Seigneur s'est approché des personnes pour le faire. Ouvrons en Luc, le chapitre 24. J'aimerais lire un texte un peu plus long, mais vous pardonnez, au verset 13. « Et voici deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs. » Éloigné de Jérusalem de 60 stades. ils entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Il arriva, comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant, et vous êtes tristes ?» Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui dit, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci ?» Et il leur dit, « Lesquelles ?» Et ils lui dirent, « Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or nous, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Mais encore, avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues, disant qu'elles avaient vu aussi une vision d'ange qui disent qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses ainsi que les femmes avaient dit. Mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Et il leur dit, « Ô gens sans intelligence, et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Et ils approchèrent du village où ils allaient, et lui, il fit comme s'il allait plus loin, et ils le forcèrent, disant, « Demeure avec nous, car le soir approche et le jour est abaissé. » Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit, et l'ayant rompu, il leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, mais il devint invisible, disparut devant eux. Et ils dirent entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux, disant, « Le Seigneur Jésus est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin et comment il s'était fait connaître à eux dans la fraction du pain. Nous voulons lire jusque-là. Voilà un événement que nous connaissons bien, je crois. Et nous avons certainement déjà réfléchi à bien des choses dans ce rapport. Voilà deux qui appartenaient aux disciples, pas des onze, mais aussi étaient des disciples du Seigneur Jésus. Ils avaient, comme on peut voir dans le rapport qu'ils ont donné, ils avaient tout vécu, ils avaient tout entendu ce qui s'était passé. Ils étaient là avec les disciples, avec aussi les autres disciples, mais ils se sont dit, rentrons chez nous, à la maison. La maison n'était pas très très loin, 11 kilomètres, Ça va aller, on va rentrer. Nous, on remarque en cela certainement aussi qu'il y avait une certaine tristesse, une certaine déception, comme ils disent aussi d'ailleurs, nous espérions, nous avons pensé ça. Et ce que nous avions pensé, ça s'est perdu, rien n'est arrivé, tout est terminé, plus rien, il ne nous reste plus rien, rentrons à la maison. Ça semble être comme ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, peut-être une petite remarque entre eux. On a souvent déjà parlé de ces deux. Je crois, moi personnellement, et avec beaucoup d'autres frères, je ne sais pas si parmi vous aussi, je crois que ça peut très bien être un couple. Un frère avec sa femme. Pourquoi? Nous trouvons ici Cléopas. Cléopas était le mari de Marie. Marie, la femme de Cléopas, nous la trouvons aussi dans l'Écriture en Jean 19, je crois. Alors, ce serait un couple. Il rentre à la maison. Un couple rentre à la maison, c'est lui et elle. Ce n'est pas deux hommes, mais c'est lui et elle. Deuxième remarque, et elle me semble aussi importante, c'est que quand l'apôtre Paul parle des témoins de la résurrection du Seigneur en 1 Corinthiens 15, nous trouvons seulement, parce qu'il s'agit là de témoignages, seulement des personnes masculines qui sont mentionnées. Il y a certaines personnes qui sont mentionnées, tous sont des hommes. Il n'y a aucune femme qui n'est mentionnée. Marie de Magdala, elle était la première d'ailleurs, mais elle n'est pas mentionnée dans ce chapitre. Donc, il semble que les deux, il y avait aussi une femme. C'est pour cela que, aussi, dans ce chapitre, 1 Corinthiens 15, ils ne sont pas nommés. Bien que la rencontre du Seigneur avec eux était une rencontre qui était le jour de sa résurrection même. Et c'était même assez tôt après la résurrection du Seigneur. Pas la première, mais une des premières rencontres du Seigneur avec les siens après sa résurrection. Bon, court. Mais je crois que dans un certain sens, c'est aussi pour nous intéressant parce que dans un couple, il y a des responsabilités. L'un de lui pour elle, elle a son autre responsabilité. Mais ils parlent ensemble et ils ont aussi un échange. Si c'est bien dans un couple, il y a un échange aussi de pensées, un échange aussi quant à ce qu'on avait vécu. Et ils étaient ensemble. Est-ce que l'un a oublié d'avoir une pensée ferme et claire de rester avec les autres? Est-ce qu'il a oublié peut-être l'un ou l'autre? Mais vous comprenez, ce que je veux dire, c'est que dans un couple, il y a toujours aussi une sorte de communication spéciale, plus intime en général qu'avec un homme et un autre homme. Les deux étaient d'accord, tous les deux, à s'en aller. Mais il y a un pasteur. Il y a le grand pasteur. Le grand pasteur qui cherche toujours ses brebis. Un pasteur qui va après eux. En allemand, on peut dire jemandem nachgehen, c'est-à-dire rechercher quelqu'un. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Rechercher quelqu'un. Aller après quelqu'un pour le gagner, pour s'occuper de lui. Et je crois que c'est exactement ce que le Seigneur fait ici. Il les suit, il les voit comme ils s'en vont. Il dit non, ils ne doivent pas s'en aller, il faut qu'ils reviennent. Et le Seigneur fait, dans sa bonté et aussi dans sa grande sagesse, exactement ce qui est nécessaire pour influencer leur cœur. Premièrement, il n'est pas reconnu par eux, il s'approche simplement. La chose ensuite, c'est il va avec eux, il marche avec eux. Marcher avec quelqu'un, le Seigneur nous montre que c'est quelque chose qui peut être important. Marcher avec quelqu'un pour pouvoir avoir un contact, pour pouvoir communiquer un peu, pour pouvoir poser des questions. Qu'est-ce que fait le Seigneur? Il pose une question. Quelles sont les paroles, ce que vous dites là, l'un à l'autre? Et je remarque que vous êtes triste. Il l'a dit, n'est-ce pas? Et vous êtes triste. Et vous raisonnez. C'est-à-dire, il y a aussi, paraît-il, d'après ce que je comprends, le mot raisonner, c'est aussi qu'il y a un entretien qui est un peu l'un contre l'autre, qui se dispute dans un certain sens. Pourquoi est-ce que ça... Et pourquoi est-ce que c'est ainsi? Et le Seigneur leur pose cette question. Oui, il y a cet étonnement que nous trouvons chez ces deux. Toi, tu es le seul ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. Ah oui, le Seigneur le savait tout à fait, n'est-ce pas? Bien sûr, il le savait. Il savait tout. Il savait même plus qu'eux ne savaient. Il pose quand même encore une question. Quand ils disent tu ne sais rien, il dit encore les choses, lesquelles? Quelles choses? Il les invite maintenant. Il faut que vous disiez, enfin que vous disiez où est votre problème, ce qui vous rend triste. Ils répondent. Nous voyons Cléopas répond. Il donne un rapport qui est parfait, n'est-ce pas? Il y a tout dedans. Il parle premièrement du fait que le Seigneur était un grand prophète. C'est vrai, il était. Il aurait pu dire plus encore. Là, il manque un peu déjà la bonne connaissance du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il était déjà plus qu'un grand prophète. Mais il dit cela au moins. Il dit encore qu'il était, alors qu'il était grand en œuvre et en parole. Oui, bon, il avait une renommée, certainement parmi ceux qui l'ont reconnu. Et puis il dit, alors, et maintenant, nos chefs, les principaux sacrificateurs l'ont livré, l'ont condamné, il a été crucifié. Il dit ça, il dit dans ces quelques mots, l'un après l'autre, moi je peux me représenter, nous lisons cela d'un trait, et c'est écrit comme cela, mais est-ce qu'il a pu dire cela, top, 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 comme ça? Vous me comprenez ce que je veux dire, c'est quelquefois nous devons lire cela lentement parce qu'il y a certainement aussi des pauses entre ces deux choses. Ils l'ont livré pour être condamné. Et puis je me représente une pause et il a été crucifié. Et ensuite, il vient de parler de ce qu'ils ont ressenti, eux, de ce qu'ils ont pensé. Nous espérions, nous avons espéré. Alors, le Seigneur fait présenter tout cela. Et il doit leur dire après qu'ils étaient sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient seulement pensé à eux-mêmes. Ils avaient espéré quelque chose, et ce qu'ils avaient espéré, ce n'était pas arrivé. Ils étaient déçus. Deuxième point, Le Seigneur leur dit, vous êtes sans intelligence et vous êtes lent de cœur pour accepter, pour comprendre ce que les prophètes ont dit. Ça, c'est quelque chose qui nous parle aussi. Nous avons prié tout à l'heure, nous avons chanté, et nous avons prié encore aussi quant à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a cette valeur qu'elle devait avoir pour nous? Est-ce que nous connaissons la parole? Est-ce que nous sommes capables de dire des choses de notre Seigneur? Est-ce que nous sommes capables de présenter aussi la vérité de la parole? Pour cela, il faut être un lecteur fidèle. Il ne l'était pas certainement, il n'avait pas tout compris. Mais le Seigneur, dans sa grâce, leur dit exactement ce qu'il faut. Il leur dit, aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. C'est une sorte de, réprimande, vous auriez pu savoir, vous êtes lent de cœur. Peut-être le Seigneur doit nous dire cela aussi quelquefois. Soyons pleins d'énergie pour lire la parole. Soyons aussi diligents aussi dans la lecture de la parole. N'oublions pas de lire la parole. Et après, dans sa grâce, il leur explique, il leur parle de l'Ancien Testament, de Moïse et des prophètes, et toutes les choses qui leur regardent. Nous connaissons aussi ces quelques passages, certainement. Le Seigneur les a présentés. Je peux me représenter que le Seigneur a parlé, par exemple, d'Ésaïe 52, parce que dans 52, nous trouvons d'une part les souffrances du Seigneur Jésus, mais d'autre part aussi déjà son élévation et sa gloire, n'est-ce pas, qui est présentée. Alors un cœur qui aurait lu fidèlement aurait dû comprendre, pu comprendre vraiment que cela était prédit, que le Christ souffrit. Et nous trouvons aussi des passages en Daniel, par exemple, il y a un passage qui dit qu'il y aura un moment où le Christ n'aura rien. Il n'aura rien. Ça, ils auraient pu savoir. Mais le Seigneur, dans sa grâce, leur explique tout cela, l'un après l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait par là? Il dit les choses qui le regardent. Il les parle de sa propre personne. Il leur présente sa personne. Il attache, ainsi dire, leur cœur à cette personne qui se trouvait déjà dans l'Ancien Testament, à toutes les pages de l'Ancien Testament. Et ces paroles du Seigneur, d'ailleurs, sont aussi une preuve pour le fait que nous trouvons partout la personne du Seigneur Jésus. Il n'y a aucun livre où nous ne le trouvons pas. Peut-être pas tout de suite, mais nous pouvons lire la parole aussi en cherchant la personne du Seigneur Jésus. Est-ce que je trouve quelque chose dans ce chapitre de mon Seigneur? Bonne intention qu'on a en lisant la parole. Alors, le Seigneur explique ce qu'il n'avait pas compris. Et ensuite, ce que nous trouvons, il s'approche du village où ils allaient et lui, il fit comme s'il allait plus loin. Pourquoi est-ce qu'il a fait ainsi? Je crois que c'est une simple raison. Il ne voulait pas s'imposer. Non, il ne s'impose pas. Mais il voulait inciter dans leur cœur ce souhait, cette pensée, ce vœu à nous voudrions être avec lui, nous voudrions rester avec lui. Et toute la façon dans laquelle le Seigneur a parlé avec ces personnes, avec ces deux, montre qu'il atteint leur cœur pour qu'ils s'attachent à lui déjà dans un certain sens, en disant « on aimerait bien que tu restes avec nous ». Ce n'est pas seulement parce qu'il va bientôt faire nuit et c'est bien que tu aies un logis. Non, c'est aussi un espoir, un vœu personnel qu'ils peuvent exprimer. Et ils le font. Et le Seigneur répond directement en entrant chez eux, dans leur maison. J'aimerais bien que nous comprenions comment le Seigneur fait cela, comment il prépare le cœur, comment il prépare les pensées aussi chez ces deux. Qu'ils ont maintenant le désir d'être ensemble, de rester ensemble encore un moment avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il arrive aussi à le faire chez nous? Est-ce que le Seigneur peut aussi inciter dans nos cœurs le désir d'être près de lui? Si nous avons l'œil et les oreilles ouvertes, l'œil ouvert pour la parole, les oreilles ouvertes pour la parole qui est prêchée, alors ça devait être le cas, que le Seigneur Jésus devient une personne à laquelle nous aimerions nous attacher, à laquelle nous aimerions avoir avec nous. Il fit comme s'il allait plus loin, et ils le forcèrent, disant « demeure avec nous ». En français, c'est un mot très, très fort, je trouve. Ils le forcèrent. Ils avaient une invitation très... Ça c'est invitation. Viens, reste avec nous. Reste avec nous. Et entre chez nous. Et alors le Seigneur le fait. Bon, alors maintenant, nous avons la situation dans cette maison. Il y a la table. Il y a maintenant aussi la table, expression qui parle de communion. Le Seigneur est prêt à avoir communion avec ces deux. Il y a le pain, il y a le repas qui est présenté. Et comment les choses sont? Alors là, si Cléopas, il va prendre le pain, n'est-ce pas? Il va prendre le pain et il va le distribuer. Eh bien non, c'est pas Cléopas qui fait ça. Mais c'est maintenant le moment où le Seigneur devient le maître de la maison. Ça, c'était pas normal. Normalement, c'est le père, c'est le monsieur qui habite dans la maison qui fait tout cela. Ici, c'est le Seigneur qui devient maître dans cette maison. C'est très beau à voir. Et est-ce qu'il est maître dans notre maison? Et il prit le pain et il bénit, et l'ayant rompu, il leur distribua. Voyons ça. Le Seigneur prend le pain, il le rompt, il a prié, il le rompt et le distribue. Maintenant, un frère l'a un peu raconté comme cela. Ils sont là, Cléopas et l'autre, ils regardent. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain, il voit les mains du Seigneur qui rompt le pain. Et qu'est-ce qu'il voit dans les mains du Seigneur? Les blessures sont là. un homme qui a des blessures dans ses mains et qui rompt le pain et qui nous le donne. Oh, qui sait? Vous me comprenez quand je dis ça? Qui sait? Ils le reconnurent à la fraction du pain. Là, quand le Seigneur a fait ça, ils savaient, ah, c'est lui. Et à ce moment-là, le Seigneur devient invisible devant eux. Il n'est pas dit, alors il s'en est allé, mais il devient invisible devant eux. Mais ils savent maintenant qui c'est. Et ils savent encore quelque chose. Ce que le Seigneur n'a pas dit, mais ce qu'ils ont compris maintenant, ce que nous avons vécu ici. Quelle merveille que nous avons vécu. Un homme que nous n'avons pas reconnu comme qui il était, un homme qui nous a parlé du Christ, qui nous a parlé du Messie, qui nous a donné des explications concernant la parole, un homme qui est entré chez nous, qui est là, et qui prend le pain, et nous voyons que c'est le Seigneur Jésus. Ça ne peut pas être, ça ne peut être quelqu'un d'autre. C'est tout à fait clair. Alors, ça c'est quelque chose que nous devons absolument dire aux autres. Et alors, ils se décident directement. Alors, nous ne pouvons pas rester ici. C'est un message que nous pouvons apporter à nos frères. Et ils font le retour. C'était tard. C'était la nuit déjà. Ils sont dans la nuit, ils sont allés. Et ils ont compris aussi qu'ils devaient être là, avec les autres. Non seuls, dans leur maison, séparés, tout seuls et tristes, et sans espoir, et déçus. Non, pas cela. Mais maintenant, rentrer chez les autres, leur dire. Et qu'est-ce qu'ils rencontrent? Nous avons lu ça aussi. Ils rencontrent alors aussi un message. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Et il est paru à Simon. Simon pouvait dire, oui, j'ai parlé. Et il m'a parlé. C'est ce que nous savons par ce passage aussi. Que le Seigneur a aussi trouvé Simon. Simon a parlé. Oui, il était là. Moi, je lui ai parlé, il m'a parlé, il est vraiment ressuscité. Grande joie parmi eux. Et ce que le Seigneur a voulu aussi, c'est qu'ils allaient de nouveau ensemble. Que ceux qui sont, qui lui appartiennent, qu'ils soient vraiment unis ensemble. Qu'ils ne s'en vont pas, mais qu'ils comprennent qu'ils forment un tout. C'est ce que le Seigneur les apprend aussi par ce qu'il a dit, par ce qu'il a fait, et ils ont compris et ils sont retournés à Jérusalem pour être témoins encore, nous n'avons pas lu, mais être témoins encore que le Seigneur vient et maintenant visiblement. Et maintenant aussi que le Seigneur mange devant eux pour leur dire « Je suis vraiment là ». Je suis celui que vous connaissez et je suis ressuscité. La foi trouve sa base, une base, aussi une base visuelle. Ils ont pu voir le Seigneur, ils ont pu parler du Seigneur et le Seigneur leur a parlé à eux ensemble. Et le Seigneur les a, pour ainsi dire aussi, ramener ensemble les 12, plus les autres disciples, plus aussi ces deux qui étaient allés à Emmaüs. Voilà comment le Seigneur agit. Les différentes petites choses que nous avons vues, comment le Seigneur les atteint leur cœur et comment ils comprennent et qu'ils font ce qui est utile, juste et plaît au Seigneur que les siens sont ensemble et ne s'en vont pas. Nous voyons un exemple, c'est un seul exemple maintenant que nous avons vu, comment le Seigneur use ses son service pastoral. Il y en a d'autres, bien sûr, par exemple, quant à Simon, encore plus tard. Et le Seigneur est toujours le grand exemple pour le faire. Une dernière pensée que j'aimerais dire. Le service pastoral. Nous disons cela parce que la parole nous parle de pasteur et nous pensons peut-être qu'un service pastoral est un service spécial pour l'un ou l'autre des frères. Oui, c'est vrai que le Seigneur a donné des pasteurs, a donné aussi don de pasteurs, certainement. Mais le service pastoral, ce n'est pas seulement un service d'un frère et encore un d'un autre frère, mais c'est un service qui est là aussi pour nous, pour beaucoup d'entre nous. Le premier service pastoral, c'est le service que nous, pères et mères, avons envers nos enfants. C'est un service pastoral. Un service pastoral aussi dans les familles, un service pastoral aussi dans l'assemblée locale. L'un ou l'autre, avoir de l'intérêt pour ce qui concerne l'autre, savoir aussi dans une manière que le Seigneur, pour laquelle le Seigneur est un modèle, chercher à pouvoir aider, à pouvoir ouvrir un cœur, à pouvoir savoir ce qui est nécessaire, et par l'aide du Seigneur et par l'Esprit Saint, répondre à ce besoin, peut-être d'un seul qui est là. Ne laissons pas partir quelqu'un. Le Seigneur n'a pas laissé partir ces deux. Il est allé après eux. Il s'est approché. Il a marché avec eux. Il leur a posé une question. Il les a enseignés. Il est allé avec eux aussi dans leur intimité. Il leur a montré, dans sa façon d'agir aussi, tout son amour, toute sa sollicitude, et le Seigneur est un modèle en cela aussi pour nous. Quand nous lisons un tel passage, je dois dire, nous ne pouvons que admirer le Seigneur aussi dans sa façon d'agir, dans son service. Et c'est un service qu'il fait encore aujourd'hui. Il aimerait, j'en suis sûr, que nous aussi, parce qu'il y a d'autres passages qui nous le montrent, que nous aussi, nous trouvons aussi, nous voyons aussi où nous avons peut-être un tel service à faire. Pour le bien de notre frère, de notre sœur, pour le bien de nos enfants, pour le bien de ceux qui sont, qui grandissent dans un monde où ils ont besoin d'être gardés, d'être consolés, d'être fortifiés, d'être enseignés. Tout cela, le Seigneur nous le montre, comme il le fait, avec grâce, avec sagesse et avec un grand amour.
Deux premières strophes du 199.
199. Strophe 1 et 2.
À tout appel, Jésus, lui seul est mon appui. Nul effort ne me
verset du 50.
50, verset 3.
Il s'est offert en sacrifice pour